Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre avec nos deux invités. Donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Et Vincent Laurent de... Alors, je ne sais pas si on dit le 24e ou de l'entreprise 24e. Bonjour Vincent.
Bonjour, on dit le 24e.
Le 24e. Alors peut-être que tu expliqueras tout à l'heure d'ailleurs d'où vient ce terme, le 24e. Alors nous allons parler dans cette émission pas forcément de logiciels libres en tant que tel, mais plutôt de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre qui normalement essayent de rendre, on va dire, une partie du bonheur au travail. Pour finir de préparer l'émission hier, je regardais un documentaire qui s'appelle justement « Le bonheur au travail » qui avait été diffusé sur Arte il y a quelques années. Et dans l'introduction, un des intervenants expliquait, alors là c'est de mémoire parce que je n'ai pas noté les chiffres, mais je crois que 10% des personnes en France qui vont au travail sont heureuses d'aller au travail. Il doit y en avoir 50% qui y vont mais sans être engagés et le reste est complètement désengagé de leur activité du travail. Donc là, on va avoir des expériences de personnes qui sont a priori dans la tranche des 10% heureuses d'aller travailler, en tout cas, on l'espère. Alors d'abord, une petite présentation individuelle, rapport rapide de votre parcours à chacun. Donc Pierre-Yves Dillard, déjà.
Alors moi, j'ai participé au début d'Easter Eggs donc en 97-98. Avant, j'avais un parcours absolument en dehors de l'informatique puisque j'ai une formation à la base d'historien. Je me destinais soit au journalisme, soit à l'enseignement. J'ai un peu essayé les deux. Et puis après, des rencontres, des hasards font qu'à un moment, on prend un aiguillage et on se retrouve dans une voie comme l'informatique.
D'accord. Vincent Laurent ?
Alors moi, donc, je suis développeur web et je fais aussi de l'administration système. J'ai une formation de beaucoup en apprentissage, essentiellement en apprentissage. Donc j'ai une licence pro et voilà, ensuite j'ai travaillé 5 ans dans la même entreprise, là où j'ai appris où j'ai fait toute mon expérience, que ce soit travaillant en équipe, en méthode agile et notamment découvert le logiciel libre. Et voilà, suite à cette expérience qui était dans une entreprise pyramidale, j'ai décidé avec mes collègues de fonder le 24e.
D'accord. Alors Pierre-Yves, on va commencer par une présentation, on va dire, succincte des grandes lignes du projet d'Easter Egg, d'organisation, du projet initial, des concepts. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail à chaque fois, évidemment, sur les différents points et avec des questions et des échanges entre vous. Donc déjà, Pierre-Yves, une petite présentation du projet Easter Egg.
Alors, dès l'origine, en fait, Easter Egg était un projet avec deux casquettes. Il y avait un projet économique, parce qu'on est une entreprise. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et il y avait un projet social. Donc, ces deux projets ont toujours été étroitement liés et jamais on essaie de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc, un projet économique, une société de services en informatique, spécialisée dans l'intégration et la mise en place de logiciels, que ce soit en intégration système et réseau ou en développement spécifique. Ça, c'est ce qui permet en fait de faire bouillir la marmite, de gagner notre vie. Et à côté, le projet social, avec comme base deux principes sur lesquels on reviendra sûrement, c'est une élection du gérant annuel, donc on va dire de la direction, on pourra aller plus loin sur ce sujet plus tard, et le salaire égal. Et ce sont ces deux principes qui ont construit Easter Eggs pendant ces dernières années, plus de 20 ans maintenant.
L'année de création d'Easter Eggs, tu peux la rappeler ?
C'est 1997, c'est fin 1997.
Ouais. Donc c'est intéressant, je pose la question parce que c'est un retour d'expérience d'une vingtaine d'années qui va compléter une retour d'expérience plus courte du 24e. Alors, donc Vincent Laurent, le 24e, donc c'est quoi le projet initial ? Et puis pareil, la date de création ?
Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on était une équipe de quatre développeurs. On était très contents de travailler sur nos projets. On était assez indépendants dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Mais il se trouve que la structure pyramidale de l'entreprise a fait que on a commencé à avoir on nous a mis des bâtons dans les roues dans notre travail au quotidien. Et du coup, on a décidé au lieu de partir chacun de notre côté, on a décidé de fonder le 24e et donc initialement, le besoin est de travailler dans des bonnes conditions et d'avoir le pouvoir de travailler dans les conditions dans lesquelles on veut travailler.
D'accord. Et est-ce que tu as quelques mots-clés par rapport justement à ces objectifs de travailler dans les bonnes conditions?
Ouais. Donc c'est le partage du pouvoir, essayer qu'il soit le plus horizontal possible et le plus distribué possible. Donc ça passe par une grande transparence. Nous, on a aussi fait le choix de développer uniquement des logiciels libres. Ça participe aussi à la transparence et au partage du pouvoir. Et nos méthodes de travail, donc, qui sont de l'auto-organisation et de la méthode agile. Donc, de développer toujours sur du concret, c'est celui qui développe, qui décide. Donc, vraiment de baser sur du concret, quoi.
D'accord, c'est le principe de celui qui sait, fait.
Ouais, exactement, c'est ça.
Alors, on va revenir, on a quelques mots-clés déjà, donc élection de la direction, partage du pouvoir horizontal, ou en tout cas transparence, on a le terme de l'agilité sur laquelle on va revenir, auto-organisation, logiciel libre. Alors, on va évacuer cette question, la première, Vincent Laurent l'a expliqué dans le cadre du projet donc, du 24e. Alors, le mot 24e, il vient d'où alors?
Ouais. Alors, du coup, on était une équipe de développeurs qui étaient au 4e étage, donc on nous appelait les gars du 4e. Et il se trouve qu'on travaille essentiellement pour les viticulteurs, donc dans des projets vins. Et donc, du coup, ça fait le 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Mais c'est
alors voilà, je pensais qu'initialement, c'était l'inverse de 42. Je n'avais pas fait le lien avec 20 et le 4e, parce que je connais un peu l'historique dans l'entreprise, dans on va dire, c'est quoi, les informations de transparence. Évidemment, l'un des associés, c'est Tanguy Morlier, ancien président de l'April, toujours membre de l'April, donc quelqu'un qui est déjà intervenu à deux reprises dans l'émission.
Il n'est pas associé, il travaille
pour vous.
Il travaille au quotidien avec nous, mais il n'est pas associé du 24e.
D'accord, ok. Alors bon, Vincent donc, a dit que la partie logiciel libre faisait partie du cœur du projet de la société. D'ailleurs, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le modèle d'organisation, ouais. Scope, etc., si on peut. Côté Easter Eggs, je suppose qu'aussi, dès le départ, c'était le principe de base.
Alors, en fait, ça a été très vite le principe de base, puisqu'en fait, c'est à l'époque où on s'est créé, c'était aussi un petit peu l'émergence du mouvement du libre en France. Et on a pris la vague avec un certain nombre d'entreprises, dont certaines que tu connais bien, Fred. Alcove, pour ne pas les citer, mais voilà, on était au début de cette vague-là et ça a été un choix aussi. Alors, ça a été un choix philosophique, mais c'était aussi un choix d'opportunité. C'était un nouveau marché qui s'ouvrait à nous et il y avait vraiment la possibilité de monter une entreprise sur ce principe-là.
D'accord. Alors, je pose aussi cette question parce que tout à l'heure, quand on parlera en fin d'émission des autres exemples, je demanderai à mes intervenants des exemples d'autres entreprises qui fonctionnent sur ces modèles-là. L'un de mes questionnements, en fait, j'en ai un double, hein, qui est est-ce que c'est le passage à l'échelle? Est-ce que dans les grandes entreprises, ce mode de fonctionnement que vous allez décrire peut fonctionner? Et le deuxième, est-ce que c'est aussi valable dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises, on va dire, du numérique et autres, dans lesquelles on a déjà une historique de travail de façon transparente et en collaboration? Mais ça, on y reviendra en fin d'émission. On va commencer déjà plutôt par la partie, on va dire, alors d'un côté, Pierre-Yves a cité l'élection de la direction, Vincent a cité le partage du pouvoir, l'horizontalité. Alors donc, au niveau d'Easter Eggs, comment ça fonctionne, ça?
Bah, en fait, on avait un principe au départ, c'était l'élection du gérant. Donc à partir du moment où on fait une élection du gérant, ça veut dire que l'ensemble des salariés vont... Alors, élection désignée, à la base, c'est une élection. Et ensuite, sur ce principe-là, on va pouvoir mettre en place, en fait, en fonction du groupe constitué, les salariés, le gérant, va se mettre en place une organisation, on va dire, qui découlera des choix et des personnes en présence. Et en fait, en fonction du gérant, on peut avoir une vie au quotidien de l'entreprise qui va être différente, puisque le gérant va être plus ou moins... impliqué dans le suivi, plus ou moins laisser, on va dire, l'entreprise avec un maximum d'autonomie sur les personnes. Donc ça va dépendre essentiellement de la personnalité du gérant. C'est aussi un apprentissage qui va se faire, puisqu'au départ, quand on dit on va élire le gérant, donc il y a un côté démocratique des choses, donc ça marche très bien. Surtout qu'au départ, quand on est une petite entité, on est finalement 4, 5, 6. Il y a un gérant qui est élu, mais on se côtoie au quotidien. Quand on commence à être, comme chez Easter Eggs, et comme on l'a été, 24 très rapidement, 25 en 2002. Donc on a eu une croissance très rapide, puisque c'était l'époque des startups et de la bulle. Et même si nous, on n'était évidemment pas financés, mais c'était nos clients. les entreprises de la Net Economy étaient nos clients. Et donc, à ce moment-là, on avait effectivement une direction relativement forte, mais qui était partagée. Et puis, en fait, on s'est aperçu très vite que la croissance qu'on a connue, alors là, je ne vais pas empiéter sur le sujet de la fin, mais la croissance qu'on a connue fait qu'une organisation comme la nôtre a besoin de beaucoup de communication et finalement beaucoup d'outils pour faire en sorte que cette communication circule et que l'information circule. Et donc là, c'est effectivement un moment, c'est le rôle du gérant de mettre tout ça en place. On sait, si je prends aujourd'hui et si je prends au départ l'entreprise, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir 3 gérants. Ça veut dire que on a donc une co-gérance de 3 personnes dans des services différents. On a un gérant qui est dans la partie administrative et commerciale, un gérant qui est dans la partie administration système et réseau, un gérant qui est dans la partie développement. Et ça signifie aussi qu'en fait, on a moins besoin de gérants et qu'il y a un principe d'autogestion qui s'est mis en place, mais dans le temps et petit à petit, et qu'aujourd'hui, on a pris une vitesse de croisière par rapport à tout ça, et que finalement, il y a moins besoin de se référer à une personne ou à un personnage qui agit un peu comme guide et comme rempart et qui va montrer le chemin, puisqu'aujourd'hui, le chemin est tracé.
D'accord. J'aurais quelques questions par rapport à cette gérance. Comment ça se passe au niveau donc, de 24e ? Donc déjà, vous êtes plus petit, vous êtes 4
ouais,
personnes.
On est 5, ouais.
5. Est-ce que vous avez aussi cette notion de gérance ou ça se passe complètement différemment ?
Ouais, donc nous, en fait, on a une co-gérance à 3 aussi. L'idée, c'est de... Bon, initialement, l'idée, c'est qu'on était 3 fondateurs, mais on a eu une discussion là-dessus dernièrement parce qu'on devait renouveler la gérance. Et en fait, l'idée qui en est sortie, c'est qu'on conservait la co-gérance à 3 parce que ça permettait de partager le pouvoir justement et qu'il n'y ait pas une seule personne qui se sente de faire toutes les tâches administratives et qu'on évite aussi l'effet avoir le pouvoir, un effet qui est inhérent en fait d'avoir du pouvoir, quoi. Enfin un effet débordant, quoi. Et donc on s'est dit qu'on ferait une gérance tournante à 3. Bon là on n'est que 5, donc elle n'est pas hyper tournante, mais c'est l'idée. Après, une des premières approches qu'on a eues aussi par rapport à cette partage du pouvoir, c'est l'approche SCOPE. Donc, nous, on est une coopérative, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc, la première approche, c'est un homme égale une voix et que tout le monde a vocation à devenir associé dans une SCOPE. Donc, on s'est d'abord questionné là-dessus, ensuite sur la co-gérance.
Ouais. D'accord. Vas-y.
Pour que ce partage du pouvoir et cette co-gérance fonctionne, nous, on s'est surtout axé sur la transparence.
Justement, c'était ma question suivante, mais je vais te laisser poursuivre, justement. Mais c'est très bien. ma question suivante, donc, effectivement, c'est sur la transparence. Parce qu'évidemment, dans le documentaire que j'ai regardé hier, je ne sais pas s'il est encore disponible vraiment en libre accès sur Internet, mais sinon, vous pouvez sans doute le trouver. Un point essentiel, il y a cet aspect de transparence, d'accès aux informations pour pouvoir évidemment prendre des décisions et être informé. Donc, comment ça se passe concrètement déjà au 24e pour la transparence ? Est-ce que c'est totalement transparent ? Quelles sont les informations qui sont transparentes ? Et comment techniquement vous mettez ça en place ? Sachant que vous êtes des informaticiens, j'ai une petite idée de la réponse, Vincent.
Donc, en gros, le seul truc pas transparent, ce sont les documents type facture, les documents type administratif. Après, on partage quand même tous nos modèles de contrat et nos modèles de contrat client et contrat salarié. Tout le reste est transparent, nos assemblées générales, nos comptes annuels, notre historique bancaire, donc chacune de nos dépenses et chacune de nos revenus sont publics, disponibles sur donc nous, la forge qu'on utilise, GitHub. Et on n'a pas encore migré sur une plateforme libre.
Mais en tout cas, tous ces documents, j'ai été voir sur cette plateforme. La référence est sur le site de l'April et aussi évidemment sur le site du 24e. Hein, c'est 24e, j'ai oublié de le dire, 24e.fr et Historex et historex.com. Et donc, sur ce site, cette plateforme logicielle d'hébergement, j'ai vu qu'effectivement, vous avez les documents, les comptes rendus d'activité, les comptes rendus de réunion, la banque, donc une très très forte transparence, y compris en interne, mais également donc en externe. Donc, c'est un accès public, je le précise.
Exactement, voilà. L'idée, c'est vraiment de se protéger du pouvoir. Que si l'un de nous, un jour, décide, pour n'importe quelle raison, de prendre le pouvoir, qu'il ait beaucoup de difficultés à le faire.
Et côté historique, comment ça se passe, cette transparence ?
Alors nous, on a alors également le principe de transparence a été un moment, un principe, on va dire de réflexion fort, sachant que pour pouvoir décider effectivement, faut être informé. Donc il y a une obligation. Nous, on ne partage pas trop vers l'extérieur. On partage vers l'extérieur à travers le réseau Libre Entreprise, dont on pourra parler un peu tout à l'heure, qu'on a créé, donc la transparence entre les entreprises du réseau. C'est une entreprise qui fonctionne comme nous. Et puis, en interne, au niveau des salariés, tous les partages sont évidemment accessibles à tous. On pousse l'information, on va dire, de nature financière régulièrement pour pouvoir informer les uns et les autres sur l'état des finances de l'entreprise, si ça va bien, si ça va mal, ainsi de suite. Et puis, toute communication vers l'extérieur est systématiquement doublée sur des listes de diffusion. Donc ça pousse l'information et qui veut aller consulter ce qui se passe dans la partie commerciale, la partie dev, la partie admin 6 ou avec tel ou tel client a la possibilité de consulter et de suivre. Faut savoir que ce principe-là, il est intéressant, mais au quotidien, il est assez vite ingérable. Donc à un moment, on peut faire des pauses ou certains en plus de facilité comme ça à s'aménager du temps pour suivre. Et donc il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui ne prennent pas une seconde pour le faire, pas seulement par manque de temps, mais parce que ils considèrent qu'ils font confiance à un tel ou un tel et qu'ils savent que l'information est à tel endroit et qu'ils pourront aller la consulter si c'est nécessaire. Et l'autre outil de transparence qu'on va utiliser vis-à-vis de notre fonctionnement quotidien est plutôt là dans au travail. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a développé toute notre activité autour d'un système de ticketing. Et en fait, toute relation avec l'extérieur est gérée sous forme de tickets qui archivent tous les échanges, tous les documents.
Est-ce que tu peux juste expliquer en une phrase ce qu'est un ticket ?
Ah, un ticket, c'est fondé sur un suivi de mail très précis avec des notions de statut sur lequel on peut après avoir des tableaux de bord et ainsi de suite, savoir qui répond, qui fait quoi. Donc ça permet notamment, on prend l'exemple des développeurs, de travailler en toute efficacité dans leur relation avec le client à travers un ticket. Le ticket, il va être visible et accessible par tout un chacun. C'est-à-dire que si le développeur demain décide de partir, on a archivé toutes ces informations dans ce ticket. Et lui, ça lui évite de faire un reporting supplémentaire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que notamment les entreprises pyramidales, il y a un temps fou passé à faire du reporting à la hiérarchie pour dire ce qu'on fait. Donc une perte terrible d'efficacité. Chez nous, on travaille, on reporte en même temps et l'information est accessible directement.
Alors justement, par rapport à ça, dans le reportage dont je parlais, l'un des points clés de ce genre d'organisation, c'est la confiance dans l'être humain. Et un des intervenants, donc, je ne me souviens plus du nom, mais d'une société, peut-être Favi ou Fabi, je pense que...
Oui, Favi, ouais.
Favi, disait qu'effectivement, beaucoup d'entreprises pyramidales perdaient un temps fou à faire du contrôle, alors qu'en fait, il ne fallait pas faire du contrôle, au contraire, il fallait essayer de faire confiance aux gens, et que ça marchait beaucoup mieux. Donc je vous encourage vraiment à regarder ces exemples-là. Il y a un site aussi qui s'appelle organisationlibérée.fr, les références aussi sur le site de la presse sur lequel vous avez trouvé beaucoup de références. Maintenant, j'ai une question, ou plutôt deux questions pour tous les deux, toujours sur cette partie, on va dire, gérance, organisation. Quand ça se passe bien, a priori, il n'y a pas de souci. mais prenons deux cas, on va dire, différents. L'un, c'est une embauche. Donc, comment se gèrent les embauches chez vous ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde intervient ou si finalement c'est la gérance qui donne son avis ? Et deuxième point plus problématique, c'est quand il faut se séparer de quelqu'un, alors soit pour des problèmes économiques, donc tout à l'heure, Pierre-Yves, tu as cité, on a cité 2001, 2002, la bulle, il y a eu aussi 2008 avec les problèmes économiques qui ont impacté beaucoup d'entreprises, et puis pour d'autres raisons, on peut avoir à se séparer de quelqu'un. Comment ça se passe concrètement ? Alors peut-être qu'il y a plus d'expérience côté historique, mais je vais laisser commencer peut-être Vincent.
Ouais. Alors nous, la séparation, on ne l'a pas encore vécue, donc je n'aurai aucun retour d'expérience là-dessus. Après, mon intuition, c'est que... Le climat qu'on met actuellement dans l'entreprise, enfin le fait qu'il y ait un partage du pouvoir, la transparence fait qu'on arrivera très certainement à des départs raisonnés plutôt que des très gros conflits, quoi. Concernant l'embauche, effectivement, nous, on s'est posé plusieurs questions au moment où on a embauché le premier salarié non fondateur du 24e. Donc notamment au niveau de la rémunération, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on en fait un point plus tard.
Bon, on finit sur cette partie-là, mais on fait un point après sur la rémunération.
Ouais. Donc voilà, donc nous on a fait rémunération libre pour
on va en parler. Oui.
Et Et ensuite, là, nous, on a fait passer deux entretiens. Un premier entretien où on essaye à l'aide d'un jeu de cartes, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais c'est une méthode qui est décrite dans un livre, qui permet d'essayer de voir quelles sont les motivations de cette personne et d'essayer de voir si le 24e va répondre aux motivations de cette personne. Donc après, le biais dans les entretiens d'embauche, c'est que tout peut être un peu faussé parce qu'on peut avoir envie de coller, d'essayer de deviner ce que l'entreprise attend. Donc on essaie de le faire en début d'entretien. Et voilà. Et ensuite, un second entretien dans lequel on demande des lignes de code à la fin de ce premier entretien. On demande le salaire souhaité. Et au second entretien, on fait un feedback sur les lignes de code. On pose les dernières questions et puis voilà.
D'accord. Alors, on me précise sur le salon web de la radio, donc qui est disponible sur le site causecommune.fm, que le jeu de cartes s'appelle Moving Motivators. Alors, je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais exactement, mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, que le recrutement n'est pas que technique, il est aussi par rapport au modèle. Bon, ça, ce qui est un petit peu normal, je pense que vous devez attirer des gens qui sont aussi intéressés par le modèle. Alors, côté Easter Egg, Pierre-Yves Dilla, bon, plus d'expérience parce que plus d'ancienneté. Donc, comment ça se passe au niveau recrutement et comment ça se passe quand il peut y avoir un problème
Alors, aujourd'hui, donc, on va revenir sur le rôle de la gérance. Effectivement, le gérant dans une SARL a tous les pouvoirs. Donc avant qu'on ait trois gérants, on en a toujours eu un pendant, et moi je l'ai été pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, un groupe, quand tout va bien, le gérant n'a aucune utilité particulière. C'est-à-dire que chacun est responsable et les choses avancent. Quand il y a des difficultés, c'est là où, en fait, où on attend, le groupe attend du gérant qu'il agisse au nom du groupe et qui prennent des décisions qui sont difficiles et qui sont difficiles à prendre en termes de groupe. Imaginez une entreprise de 20 personnes et on doit se séparer d'une personne. On ne va pas faire une assemblée générale, mettre le gars au milieu et lui expliquer pourquoi tout le monde pense qu'il devrait partir. Donc là, il faut que ça soit un face-à-face, homme à homme. Le gérant doit consulter plus ou moins officieusement, officiellement, sentir un petit peu les choses et vraiment prendre ses responsabilités. Responsabilité et travailler alors sur pourquoi cette personne va mal, est-ce que a-t-elle vraiment sa place au sein de l'entreprise, il peut y avoir de la lassitude, enfin, il y a plein de raisons qui font qu'une personne veut partir. Et moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que je suis devenu vraiment gérant au premier licenciement que j'ai dû réaliser. C'est parce que c'est très traumatisant, c'est extrêmement difficile. Il y a eu un engagement qui a été fait, c'est quasiment, il y a un engagement moral, dire que c'est, certes, il y a un contrat de travail, mais quand on rejoint une entreprise comme la nôtre, il y a un engagement qui va au-delà d'un contrat de travail, et une séparation, c'est compliqué. Donc c'est un point très important, et c'est un rôle attendu et important du gérant à partir du moment où on va être sur un groupe un peu plus important de 14, 15, 16, 17, 20 personnes. Et par ailleurs, quand en 2002, on a dû passer de 25 personnes à 12, ça a été aussi une aventure.
2008
2002, déjà.
2002, ouais. D'accord.
Non, en 2008, on a géré différemment. Mais en tout cas, on a pu dire que n'importe quelle autre entreprise en 2002 serait liquidée. Nous, aujourd'hui, avec notre modèle, on a pu organiser les départs, des départs raisonnés, des départs, voilà, mais ça s'est fait dans la discussion, plus à chaque fois individuel, parce que la question, c'est dans une entreprise, n'oubliez pas qu'on est, on a un engagement économique, on a des clients, donc l'élément, c'est quand on est 24 et que d'un seul coup l'activité s'arrête, c'est qui est à l'arrêt, qui ne bosse plus, qui n'a plus d'activité et qui travaille, et ça fait un moyen pour définir qui part, sachant que derrière, un certain nombre de salariés ont créé leur propre structure. On en a incubé un certain nombre, et ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là que le gérant doit prendre ses responsabilités. Et c'est aussi à ce moment-là où le modèle a montré sa force, puisque si on allait à la liquidation, ce qui aurait été logique normalement par rapport à la situation, ça voulait dire que, quelque part, les gens se préoccupaient pas forcément du modèle Easter Eggs, mais se disaient, si, ils me doivent ça, on va aller chercher, on va aller au tribunal, machin, on va récupérer. Les gens sont partis, on a pu assainir la situation. Et l'entreprise a pu perdurer et passer cette étape difficile.
Pour le grand plaisir de tout le monde. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Otra vez par Javiera Barro Ensemble. Et on se retrouve juste après.
Porque es dudar lo que me impulsa a estar acá. La dualidad remece el centro de mi paz. Y me resisto a no poderme expresar.
Cause commune.
Lo que hay en el cielo. Ya me aburrí de practicar el que dirán. Alimentar la falsa amor o realidad. Y me atormenta esta cháchara mental. Vomito luego.
Par Javiera Barro Ensemble. Bon, excusez-moi pour la prononciation, je ne m'améliore pas de ce côté-là. Cette sous-licence Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre discussion donc, sur la présentation de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre. Et nous allons aborder maintenant le sujet de la rémunération, parce qu'il y a clairement une différence entre vos deux structures. Pierre-Yves Dillard, donc d'Easter Eggs, tu as expliqué tout à l'heure que donc, les salariés avaient le salaire égal. Et Vincent Laurent, pour le 24e, tu avais parlé, je crois, de salaire libre, ou en tout cas, bon. Mmh. Alors, on va commencer donc par Pierre-Yves. Pourquoi le choix de ce salaire égal?
Alors déjà, c'est parce que c'était simple et parce qu'au départ, ça coulait de source. Et parce que ça s'imposait, quand au départ, il y a 4 personnes qui font une entreprise, il n'y a pas de raison de différencier un salaire plus qu'un autre.
En plus, il n'y en a pas de salaire au départ, généralement.
Et en plus, et partager rien, c'est facile. Partager quand il y a très peu, c'est aussi très facile. Et finalement, ça s'est imposé assez naturellement. Et ça a été très vite un pilier de la cohésion et de la solidarité telle qu'elle s'est installée chez Easter Eggs, puisqu'en fait, ça permet un dépassement de fonction de chacun. On est dans un métier où il y a des rivalités traditionnelles entre ces fameux commerciaux qui vendent n'importe quoi et des développeurs qui doivent développer des choses impossibles.
Vous êtes dans le métier de l'informatique, on va le préciser. Effectivement, voilà. C'est assez traditionnel.
Et puis, des admin 6 qui sont des ayatollahs et des développeurs qu'on font qu'à leur tête et qui travaillent jamais en stable. Donc, ces conflits-là, aujourd'hui, chez Historex, n'existent pas puisque chacun écoute attentivement les besoins de l'autre, puisque c'est la réussite du projet global et qui est attendu par tous. Et donc, le partage de cette rémunération commune et le partage aussi des fruits, des bénéfices.
Poursuivre sur la répartition des bénéfices, et après on verra le cas du 24e.
Aujourd'hui, globalement, nous, on prend 80% des bénéfices de l'entreprise et on les répartit en part égale avec tous les salariés dans la limite de la législation, ce qu'autorise la législation à travers des plans d'épargne entreprise, des choses comme ça. Donc ça permet aussi de motiver, c'est de la motivation claire, puisque voilà, on a tous des familles et des obligations et on est aussi là pour gagner notre vie. Et donc c'est quelque chose d'important et je sais que voilà, à partir de septembre, octobre, on sait que généralement l'entreprise est à l'équilibre et que tout ce qui va être fait ou tout ce qui rentre à partir d'une certaine date, ça devient du bénéfice et ça devient du complément de rémunération qui fait partie aussi d'une forme de qui sanctionne, on va dire, un travail réussi et collectif.
D'accord. Donc ça, c'est Easter Eggs. Et côté 24e, vous, c'est pas du tout le même choix.
Alors, pas le même choix au niveau, effectivement, de la rémunération mensuelle. Quand on a démarré, on était donc trois cofondateurs. Donc, on s'est évidemment versé le même salaire. On avait le même niveau d'investissement. Et quand on s'est posé la question de commencer à recruter, on s'est demandé comment, justement, on allait gérer cette question de la rémunération. Et donc, au début, on s'est dit, on va faire le même salaire égal. Et en fait, après réflexion, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intimidant d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a trois cofondateurs et de gagner le même salaire que ces trois personnes. Et donc, du coup, on a décidé de faire de la rémunération libre. Donc, chacun est libre de décider de son salaire, pas besoin de validation des autres. De toute façon, elle est inhérente. On ne va pas, bien sûr, décider du jour au lendemain comme ça de se verser 1000 euros de plus sans en mesurer les conséquences, c'est bien sûr c'est évident. Et donc voilà, donc quand on a passé les premiers entretiens, les candidats donc nous donnaient le salaire qu'ils voulaient avoir et donc c'était en gros le salaire qui leur permettre de vivre dans les conditions dans lesquelles ils souhaitent vivre.
Et donc dans chaque cas, ça a correspondu finalement aux possibilités de l'entreprise.
Exactement. Ouais, comme les comptes sont comme public. L'historique bancaire est public, tout est public. Donc tout le monde a toutes les cartes en main pour savoir si son salaire est en adéquation avec l'entreprise. Après, donc nous on considère l'entreprise comme un bien commun et c'est pourquoi aussi on reverse tous les bénéfices donc 100%, enfin hormis les aspects légaux des scopes qui nous forcent, enfin qui obligent à mettre en réserve, mais tout le reste et reverser aux salariés. Et voilà, on verse pas de dividendes. Et donc, c'est pareil, c'est en mécanisme de participation. Donc voilà, on conçoit vraiment l'entreprise comme un bien commun et chacun est là pour faire vivre ce bien commun et le choix du salaire en conséquence.
D'accord. Alors, ça me fait penser à une question. Tu parles de la question du salaire égal entre anciens et nouveaux qui pouvait être un peu déstabilisant. Ma question, c'est... ce qui peut être aussi déstabilisant, c'est de rentrer dans une structure où il y a des, mine de rien, on dit une personne, une voix, mais il y a quand même des gens qui ont peut-être un peu plus de présence, ne serait-ce que d'historique. Tout simplement, par exemple, Pierre-Yves Guillard, l'un des fondateurs, donc forcément, côté 24e, les trois cofondateurs. Comment ça se passe pour les personnes qui entrent? Comment est-ce qu'il y a un certain temps d'adaptation pour passer d'une personne spectatrice à une personne actrice? Et est-ce que les personnes à l'origine du projet gardent toujours, on va dire, peut-être un avantage ou autre?
Alors, nous, c'était un sujet important. Et la question, ça a été de dire à quel moment, chez Historex, un gérant sera issu d'un salarié non fondateur, ce qui est arrivé il y a maintenant... une dizaine d'années, voire plus. Ouais. Donc c'était ça validait le système. Ça montrait qu'un quelqu'un qui n'avait pas fondé l'entreprise pouvait se l'approprier complètement. et pouvait tisser ce lien, on va dire, assez charnel quand on est au début d'un projet, qu'on se paie pas de salaire, que c'est compliqué, qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est intéressant que des personnes non fondatrices soient devenues gérants. Ensuite, le statut de gérant ou le statut de fondateur, c'est un statut, de toute façon, on ne peut rien y faire. Il y a forcément un rôle légèrement différent, mais ce rôle-là, il y a aussi un rôle différent des salariés qui eux-mêmes sont passés par la gérance. Et aujourd'hui, tout salarié qui est passé par la gérance, donc aujourd'hui chez Easter Eggs, on est trois anciens gérants salariés et il y a actuellement trois gérants. Quand on est passé par la gérance, on a une conscience légèrement différente des enjeux. C'est pas tout à fait explicable, c'est presque irrationnel, mais on a un sens de responsabilité un peu différent, même si ça ne veut pas dire que les autres sont irresponsables, loin de là. Hein. Mais c'est un ressenti qui est assez différent et c'est assez intéressant ensuite après de partager sur des prises de décision avec des gens qui ont pu être aussi proches de justement de la prise de décision et de la difficulté de certaines prises de décision. Donc chez Easter Eggs, il y a des statuts qui sont... on n'est pas inébranlable, mais si on reste là, c'est qu'on y est bien. mais ça, on ne peut rien y faire. Hein. Mais je pense que c'est inhérent à toutes ces organisations maintenant qui ont un peu vieilli. Et puis, je pense que la présidence de l'April et son délégué général peuvent avoir également, de temps en temps, pas des confusions, mais en tout cas, pour certains, on peut oublier que... Vous, Frédéric, que toi, Frédéric, n'es pas seulement délégué.
Tout à fait. Mais les statuts et l'organisation avec des personnes fortes permettent que la structure effectivement perdure dans le bien commun en fait de l'objectif initial qui pour nous est la promotion et la défense du logiciel libre et qui pour vous est finalement de produire ou d'accompagner des structures vers le logiciel libre. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose,
En fait, ce sont nos statuts forts en fait. Qui vont garantir tout excès par rapport à une position dominante qui pourrait être celle-ci, puisque dans notre système, l'ensemble des salariés incarne l'actionnaire, c'est-à-dire que la personne qui est gérant ou toute personne qui pourrait exercer un pouvoir jugé trop exorbitant pourrait être démis du jour au lendemain par l'ensemble des salariés qui incarne finalement l'actionnaire majoritaire.
Alors, sur cette partie-là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que l'émission est courte malgré tout, mais je signale une conférence que tu avais donnée donc à Passage en scène, je crois que c'était en 2016. Alors,
oui.
Easter Eggs, un modèle d'entreprise démocratique. Donc, vous trouverez les références sur Internet et sinon, je les mettrai sur le site de l'April tout à l'heure, dans lequel tu rentres plus en détail sur ce mode de fonctionnement.
Tout à fait.
Et notamment le statut de SARL et d'association à côté, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, parce que sinon, on y passera à la fin de l'émission. Vincent, là, on va maintenant aborder un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu as parlé tout à l'heure d'agilité, d'organisation. Donc, justement, au quotidien, comment s'organise la société pour les projets et puis pour les décisions à prendre? Donc, quand tu as parlé d'agilité, tu entendais par quoi? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qu'est l'agilité.
Ouais, donc... L'agilité, c'est une façon de mener des projets ou de mener un projet à bien. Donc, il y a juste pour expliquer brièvement, le cycle en V classique, c'est on a un besoin, on recueille les besoins. Nous, dans notre activité, on développe le logiciel. Et à la fin, quand on a terminé, on montre le logiciel au client. Donc, cette méthode fait qu'en fait, on a des périodes de développement très longues parce qu'on n'a pas de retour rapide et on se trouve à devoir développer tout très rapidement. Donc la méthode agile, ça permet de pas avoir ces développements en silo où pendant un an, on va pas discuter des besoins qui vont potentiellement avoir évolué. Donc nous, la méthode agile, concrètement, donc on a deux aspects de la méthode agile, c'est en interne et avec les clients. Mais ça se rejoint pas mal. Donc avec les clients, concrètement, ça s'organise en ce qu'on appelle des sprints. Donc c'est des réunions qu'on fait tous les mois environ. Le client a un projet, il nous envoie ses besoins. On commence directement par développer ce qui nous semble pertinent pour démarrer le projet. On fait une première réunion, on lui montre ce qu'on a fait. Donc la méthode agile, c'est toujours discuter sur du concret. Donc on lui montre ce qu'on a fait, il nous fait des retours, on corrige, on voit si on est parti dans une impasse ou pas. Ensuite, on discute sur ce qu'on doit développer la prochaine fois, toujours sur du concret, sur des interfaces crayonnées sur du papier ou bien sur des choses développées très rapidement. Et ça nous permet d'avoir un objectif pour le sprint d'après. On définit la réunion donc souvent 3 semaines ou 1 mois et demi après. Ça dépend de, justement de la quantité de travail à abattre. Et ainsi de suite jusqu'à la réalisation finale du projet. Il y a plusieurs façons de mener des méthodes agiles, mais nous, on utilise beaucoup le management visuel, donc pour recueillir les corrections de bugs, les petits besoins, on utilise des post-it qu'on accroche au mur et qu'on organise par client.
D'ailleurs, sur votre site, il y a pas mal de photos très sympathiques avec plein de post-it de toutes différentes couleurs.
Ouais, on a des post-it à 360 degrés dans notre bureau, donc ça nous permet de gérer ça. On a des post-it qui nous permettent de gérer tous les projets en cours, à venir, les deadlines, les attentions particulières des clients qu'on relie très régulièrement. Ça nous permet de gérer les priorités, en fait. Et on a aussi plus en méthode Kanban. Donc la méthode Kanban, c'est de faire évoluer les post-it. Donc par exemple, on va écrire sur un post-it, faire signer le contrat avec le client Intel, et on va le faire évoluer, et on va le faire passer de statut signé à envoyer, signé, etc. Donc on utilise des post-it un peu pour... donc très visuel. Le but, c'est que ça soit très visuel, et que quand on rentre dans le bureau, on voit où on en est, la quantité de travail à abattre. Et donc...
Tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, donc un des principes forts, c'est celui qui sait qui fait. Et c'est aussi celui qui décide. Donc celui qui développe, c'est celui qui va en réunion, c'est celui qui décide. Ça, c'est très fort chez nous. On n'a pas de gestion de projet. On n'a pas de Scrum Master. On s'organise tous. On a tous ce rôle-là.
Un Scrum Master, c'est un responsable de la méthode, dire, dans la terminologie agilité. Alors, je vois le temps qui avance et je pense qu'on consacrera une autre émission pour poursuivre avec vous sur un certain nombre de sujets. Mais avant, j'aimerais quand même poser quelques questions, notamment une petite question. Tu as parlé des clients, Vincent. Donc, très rapidement, comment vous êtes perçu par vos clients par rapport à votre modèle d'organisation ? Est-ce que vos clients sont informés ? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ? Tous les deux. Pierre-Yves.
Alors, en fait, au départ, nous, sur certains clients un peu classiques, institutionnels, on se présentait comme une boîte très classique. Enfin, on ne se présentait pas, en fait. On se présentait comme une SARL, puis point barre. Et puis, une fois la relation tissée, à l'occasion d'un déjeuner, d'une rencontre, eh bien, on allait plus loin dans le modèle d'organisation, qui on était vraiment. Et en fait, on s'apercevait qu'à chaque fois, ça créait une sympathie, une adhésion supplémentaire, puisqu'en fait, ils avaient rencontré techniquement des gens, doués. Mais en plus, on leur expliquait en fait pourquoi l'investissement, pourquoi ils avaient des gens en face d'eux qui avaient l'air aussi concernés par leur projet. Donc, en fait, ils mettaient en relation, finalement, une forme de qualité qu'ils jugeaient intéressante et puis un modèle d'organisation. Donc, après, c'est devenu pour nous un modèle, une forme de communication. En fait, on a complètement assumé, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit sur notre site, parce que c'est ce qu'on met en avant en premier lieu, c'est notre modèle social, puisqu'on a aussi vocation, pas seulement de travailler avec des entreprises, on va dire, classiques, mais aussi à travailler avec des clients de l'économie sociale et solidaire, avec qui on a on se sent plus proche et avec qui le travail est souvent plus fluide et plus logique. Je vais citer Enercop ou Mobicop, ou en tout cas des clients de ce type-là avec qui on partage naturellement une envie de travailler ensemble.
Et côté 24e ?
Donc nous, on ne communique pas trop sur le fait d'être une entreprise libérée auprès de nos clients. On communique plus sur donc ce qui va les impacter directement, la méthode agile, le fait que c'est du logiciel libre, parce qu'ils peuvent, bénéficier de code qui a déjà été payé par d'autres clients. Et ils sont co-auteurs du logiciel, ce qui leur offre beaucoup d'indépendance. Et après, en fait, notre gouvernance et notre façon de partager le pouvoir, ça, c'est plus dans la relation de confiance de long terme avec nos clients qu'on va la mettre en avant, mais ça va se mettre en avant un peu de façon naturelle, par des exemples concrets, des réunions qu'on fait avec nos clients, qui durent plusieurs jours, voilà.
D'accord. Autre question, vous êtes deux structures, comme l'on dit tout à l'heure, plutôt type TPE, on va dire, avec une vingtaine de personnes dans un cas et 5 personnes dans l'autre cas. Alors très rapidement, peut-être plutôt Vincent Laurent, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui fonctionnent sur ce modèle proche ? Est-ce que c'est le terme entreprise libérée? Est-ce que vous reconnaissez ce terme-là, 24e? Parce qu'on n'a pas abordé ce terme.
Oui, on se reconnaît dans le terme entreprise libérée. Ouais.
D'accord. Donc, sur le site de l'entreprise, vous avez des références. De toute façon, je pense qu'on consacrera une autre émission. Mais là, ce qui était important, c'est au-delà du terme, c'est la méthode. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises dans lesquelles ça marche, mais de taille supérieure et hors du domaine informatique?
Alors, j'ai que des exemples hors du domaine informatique de taille supérieure. Enfin, ici, il y a Sun, je crois, en informatique, qui à un moment a été libéré. Qui était assez entreprise libérée.
D'accord.
Mais sinon, les gros exemples, c'est Burtzorg. Donc, c'est une entreprise néerlandaise de 10 000 personnes qui, depuis 2006, donc ils ont une croissance très forte. En fait, c'est une organisation qui permet aux infirmières de s'organiser en petits groupes pour pouvoir exécuter leur travail dans des conditions humaines. Et donc, voilà, c'est parti d'un constat simple que les infirmières, tout était chronométré, tout... faire un pansement, c'est 5 minutes, ça coûte tant, etc. Et donc, la personne qui a fondé Burtzorg a décidé d'essayer de trouver une organisation qui permette aux infirmières d'avoir une gestion humaine de leurs patients et, voilà. Et du coup, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique pour la sécurité sociale néerlandaise.
D'accord.
Pour ensuite,
un dernier.
Ouais, Gore, c'est donc ceux qui font le Gore-Tex, donc c'est ceux qui font la technologie, enfin le tissu qui permet... aux vêtements d'être étanches et ils font plein d'autres, ils ont plein d'autres applications. Donc eux, ils sont 5000 salariés, ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Et eux, c'est depuis 1958. Et c'est pareil, ils sont organisés en petites équipes, mais pas fixes. Chacun peut décider de projets à mener. Ils ont des médiateurs. Enfin, ils ont des... En gros, chacun peut avoir une sorte de conseiller. Enfin, voilà, ils sont assez libres.
Je crois que le terme employé, c'est leader.
Alors, après, il y a les leaders libérateurs.
Leaders libérateurs.
Donc, c'est plus dans le cadre de la transition. En fait, souvent, on a un leader libérateur qui va transformer l'entreprise et la rendre plus libre, et qui peut aussi poser des problèmes à son départ. Voilà.
Alors, je précise que Gore, je connais parce que c'était dans le reportage que j'ai encore une fois regardé hier. Donc, on remettra la référence sur le site de l'April. Hein, c'est Le Bonheur au Travail qui a été diffusé sur Arte. Alors, dernière question. Et puis, alors, les autres exemples d'organisations donc, qui ont ce même modèle-là, il y a un site que j'ai cité tout à l'heure. Ouais. C'est Organisation libérée
au pluriel.fr
avec un accent.fr mais sinon vous allez sur le site de l'April, il y a le lien qui vous donne plusieurs exemples et il y a aussi des exemples sans doute d'échecs. J'ai vu récemment par exemple Auchan qui avait tenté ça parce que dans le reportage aussi ce qui est très, très intéressant qui est montré c'est que la parole est donnée aussi à certains syndicats qui pointent évidemment des potentiels problèmes dans ce genre d'organisation, notamment pour les grosses entreprises. Donc je vous invite vraiment à consulter ça. J'insiste sur le fait d'ailleurs que les deux expériences qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont deux expériences personnelles et qu'il convient ensuite de voir dans chacune des structures comment les adapter par rapport à cette ambition d'entreprise démocratique. Mais j'ai une dernière question qui concerne peut-être votre actualité ou vos besoins. Est-ce qu'il y a du recrutement en cours, par exemple? Pierre-Yves, pour commencer.
Oui, on est désespérément à la recherche d'un développeur Perl. Et puis s'il connaît Request Tracker, le fameux logiciel de ticketing qui nous sert tant, c'est un plus. Voilà. Donc un appel à tous les mongers.
Les mongers, le surnom des personnes qui développent en Perl. Vincent, pour 24e.
Pas particulièrement, si ce n'est qu'on n'est que des hommes et on aimerait bien un peu de parité dans notre équipe de développement.
Bah, très bien, d'ailleurs, ça me fait penser que sur le salon web, quelqu'un précise que Historic recherche un développeur ou une développeuse Perl. C'est une précision évidemment importante. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux, donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs et aussi du réseau Libre Entreprise dont on parlera la prochaine fois qu'on n'a pas abordé. Vincent Laurent, donc du 24e, donc 24e.fr, eastereggs.com. Donc c'est quelque part un peu le bonheur au travail dans le monde du logiciel libre, mais je voudrais quand même préciser que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le monde du logiciel libre qu'il y a forcément du bonheur. Il y a aussi des entreprises qui sont en souffrance, ou plutôt les salariés sont en souffrance, je ne citerai personne évidemment, mais voilà, il faut quand même faire attention là où on met les pieds. Donc je vous remercie pour cette intervention. Donc on n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait, clairement, et on les abordera sans doute dans une seconde émission, et peut-être même d'ailleurs dans le cadre d'autres émissions de Cause Commune. Je pense notamment à l'émission Cause à effet ou l'émission Le Monde du Travail en question, peut-être pour avoir un échange avec des gens différents sur ce sujet qui est vraiment passionnant. En tout cas, je vous remercie. Bonne journée.
Merci.
Merci à vous.